Le 17 juin 2019, nous avons reçu un mail de la part de notre mission de la CIM au Niger. Une des églises AD, Assemblée de Dieu, de Maradi. Maradi est à peu près à 500 km de Niamey, de la capitale, ou à 600. Une des églises Assemblée de Dieu de Maradi a été attaquée et incendiée par une foule la nuit dernière, c'est le 17 juin. La maison et la voiture du pasteur ont également été détruites. Bien que lui et sa famille n'aient pas été blessés, gloire à Dieu. Le Bureau national d'alliance des missions églises et missions évangéliques du Niger a reçu le message suivant. Un enseignant de mosquée avait dans une prêche de vendredi appelé ses fidèles à prier contre l'adoption de la loi portant réglementation du culte au Niger par l'Assemblée nationale. Un groupe des manifestants s'en est donc pris à l'église, Assemblée de Dieu, de tel quartier, avec des dégâts matériels. Merci pour vos prières. La famille du pasteur est saine et sauve. À notre connaissance, il n'y a pas eu d'autres attaques. L'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger a poursuivi en affirmant que les autorités lui avaient assuré de ne pas craindre d'aller à l'église. Cependant, certains de nos missionnaires de la CIM à Maradi choisissent de rester chez eux ce matin. Il y a eu des appels à d'autres manifestations aujourd'hui à Maradi. Nous remercions le Seigneur qu'il n'y en a pas eu d'autres manifestations suite à cet événement. Le 19 juin 2019, un autre mail. Chère famille de la CIM, ce matin, nous avons été informés d'une attaque contre un poste de police situé au nord de Niamey, sur la route de Wallam. Ça, c'est à quelques 50-40 kilomètres de Niamey. Il y a des rapports de certains morts et blessés pour la police, mais les détails exacts ne sont pas clairs. Comme d'habitude, nous continuons à surveiller les événements et à partager tout ce que nous pouvons vérifier. Veuillez continuer à prier pour le Niger, notre gouvernement et les forces de sécurité. C'est la réalité, chers frères et sœurs, que nous vivons actuellement au Niger. Nous voulons vous remercier à cet endroit de vos prières pour nous et pour nos collègues, nos frères et sœurs au Niger. Nous savons que si le Seigneur nous garde, nous protège, c'est aussi grâce à vos prières pour nous. Quand nous prions pour les missionnaires, comme nous le faisons chaque premier mercredi du mois, maintenant la réunion de prière aura lieu donc le 10 juillet chez les Dieter à Tentlingen. Nous prions pour les missionnaires, nous prions aussi pour l'Église persécutée. Et nous avons vraiment voulu vous montrer un petit peu quelques impressions de notre dernier séjour au Niger. C'était du novembre l'année dernière jusqu'à peu près en février, pour vous donner un petit aperçu ce que nous avons vécu. Nous louons et nous bénissons le Seigneur pour ce dernier séjour que nous avons eu au Niger. C'était, ma femme dit toujours, ma femme Bonnie qui est là aussi, dit toujours que c'était un des séjours les plus intéressants jusqu'à présent, et on a été, je crois, 33 ans maintenant au Niger. Elle dit que ça a été vraiment un séjour très intéressant et nous vous aimerions partager quelques images dès que la lumière vienne. Bien. Mais ce matin, et je remercie encore notre frère qui a introduit le sujet, combat, ce matin j'aimerais parler du combat spirituel. Et le texte qui va nous conduire se trouve dans le livre des Actes, chapitre 3. Le livre des Actes, chapitre 3. Et notre message s'intitule « La puissance du Saint-Esprit en action ». La puissance du Saint-Esprit en action. Nous allons voir deux points seulement. Une guérison miraculeuse au nom de Jésus et une prédication qui exalte le nom de Jésus. Ce sont les deux points que nous allons voir. Notons tout d'abord que la promesse du Saint-Esprit ainsi que l'accomplissement de cette promesse se passe dans un contexte de persécution. Et je vais continuer maintenant avec nos images. Alors ici, ça c'est chez nous, au Niger. On est un peu habillé à la manière nigérienne. Ici, nous avons eu la joie d'enseigner quatre cours en tout à l'école de théologie. Vous avez les étudiants ici. Il y a trois qui ont fini cette année, dont le jeune monsieur qui est le troisième à votre droite. Le jeune monsieur, c'est un Touareg, c'est un Tamashek, et je crois que c'est le premier Tamashek qui a fini la formation de trois années à l'école théologique. Et nous prions vraiment que le Seigneur le bénisse, ainsi que le pasteur qui est à côté de lui, qui est en chemise rouge. Il a également fini, il est du Burkina Faso, et il va retourner dans une région où on a entendu pas mal de problèmes avec des mouvements radicaux. Alors, ce sont des frères qui finissent leurs études cette année. À côté de moi, vous voyez le nouveau directeur de notre école qui va se marier, Dieu voulant, en juillet. 14 juillet, toute la France va célébrer avec lui. Nous avons eu la joie d'enseigner la théologie de l'Ancien Testament et comme vous le voyez, nous avons une maquette du tabernacle que nous avons utilisée pour enseigner comment un peuple pécheur peut-il s'approcher d'un Dieu saint. Et Bonnie a enseigné ce cours de théologie de l'Ancien Testament ainsi qu'aussi un cours sur les livres poétiques. J'ai enseigné un cours sur la liturgie ainsi que sur l'éthique morale. Merci beaucoup. Nous avons fait avec les étudiants de troisième année un repas messianique, une Pâque messianique. Et elle devrait parler. Voilà. Elle n'a pas parlé. Voilà. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam. Korei preha gafen. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, créateur du fruit de la vie. Avec la joie dans nos cœurs, nous attendons l'occasion d'être avec le Seigneur dans la Nouvelle Jérusalem.
Amen.
La Shana haba b'Yerushalayim, à l'année prochaine à Jérusalem.
Amen.
Quittons ici comme des messagers de Dieu, annonçons à tous ensemble. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était pour illustrer la Pâque messianique. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous avons eu la joie aussi d'enseigner des jeunes sur la louange et l'adoration. Et les jeunes eux-mêmes ont pris l'initiative pour venir chez nous. Ils ont dit à papa et maman, là, ils ne doivent pas se déplacer la nuit, on va aller chez eux. Et on remercie beaucoup le Seigneur pour cela. Chaque mardi soir, on a eu un temps où on a pu enseigner sur la louange et aussi aider avec la musique. Nous avons aussi eu un séminaire sur le Saint-Esprit dans des églises, dans une église.
Le Saint-Esprit envoie à mission, le Saint-Esprit parle. Quand il parle, quand il a quelque chose à dire, c'est pour l'œuvre de Dieu et pour la gloire de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a une volonté, 1 Corinthiens 12, verset 11. Le Saint-Esprit a des émotions. Est-ce que vous savez ça? Le Saint-Esprit a des émotions. En fait, on peut l'attrister. En Éphésiens 4, verset 30, on peut attrister le Saint-Esprit.
Nous avons aussi partagé la parole de Dieu avec la communauté Tamashek, les Touaregs. Ici, vous avez un pasteur Touareg avec son épouse. Et puis ici, un de nos amis s'est marié On ne voit pas ça maintenant. Ici, vous avez les époux. Lui, il s'appelait Jésus. C'est un croyant. Il a accepté le Seigneur. Et elle, elle est canadienne. Ils se sont mariés et ils nous ont invités. Et on était ensemble avec tous ces gens-là. Et la plupart de ces gens ont besoin encore de la bonne nouvelle du Seigneur. Nous avons aussi eu la joie de collaborer avec un musicien touareg, un poète et un musicien touareg, sur ce que nous appelons le projet de la sagesse, où nous comparons la sagesse traditionnelle de Tamashek avec la sagesse biblique. Ça, c'est l'introduction. Voilà. Et voici, vous avez tout compris, n'est-ce pas? Vous avez tout compris? C'était tout juste une introduction à cette chanson de sagesse qui dit simplement « Venez, nos amis, écoutez cette chanson de sagesse ». C'était une introduction. Ici, vous savez, des sujets de prière. Nous prions beaucoup pour notre école de théologie qui a maintenant un nouveau directeur, je viens de le mentionner. Et que le Seigneur vraiment bénisse cette école. Nous avons besoin de leaders vraiment bien formés pour nos églises. Et veuillez vraiment prier pour cette école. Nous avons beaucoup d'espoir pour cette école. Et avec maintenant un collègue qui est venu aussi du Burkina Faso, qui va nous aider avec ce travail-là. Alors, la promesse du Saint-Esprit a été donnée dans un contexte de persécution. Le Saint-Esprit, avec son fruit, n'a pas été donné pour nous sentir bien et à l'aise. On peut laisser les images pour le moment. Vous savez que la persécution de nos jours est une réalité dans beaucoup de pays. Et je parle de persécution physique. En fait, il est important, je crois, pour nous aujourd'hui, où nous parlons des fois beaucoup du fait que le Saint-Esprit nous est donné pour notre propre réconfort, pour notre propre bien-être, pour notre propre vie. C'est vrai, dans un sens, oui. Mais quand vous regardez dans le livre des Actes, le Saint-Esprit a été donné dans un contexte de témoignage qui faisait face à beaucoup d'opposition et aussi dans un contexte de persécution. Le combat dans Actes 3 est intense et réel. Et l'histoire montre que les disciples, les premiers disciples, étaient très conscients de ce combat. Par exemple, pour nous au Niger, le combat spirituel est très réel. Des fois, la persécution prend pour cible les nouveaux croyants. Les femmes qui viennent à Christ sont rejetées par le mari et forcées de quitter le foyer. Les enfants de chrétiens risquent de se faire agresser sur le chemin de l'école. C'est pour cela que j'ai mis cette photo. C'est le papa de deux enfants qui nous a raconté lors de notre camp biblique que ces deux enfants, chaque fois quand ils vont à l'école, sont agressés rien que à cause qu'ils sont chrétiens. Plus souvent aussi, il y a les enfants ou les adolescents qui ont des problèmes lorsqu'ils montrent quelque intérêt à l'Évangile. Par exemple, cette jeune fille, elle s'appelle Yvonne. Elle s'est intéressée à un moment donné à l'Évangile et sa famille large ou vaste, je ne crois pas que ce soit ses propres parents, mais dans la famille élargie, il y a eu quelqu'un qui l'a battue et l'a ainsi intimidée d'arrêter son intérêt à l'Évangile. Les hommes qui suivent Christ perdent leurs emplois et il est vraiment, presque chaque jour, nous avons affaire à des situations où on voit, où on sent la persécution. Je voudrais commencer donc avec ce point, une guérison miraculeuse au nom de Jésus. Acte 3, le verset, si vous avez les Bibles. Acte 3, le verset 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. On peut arrêter les images, merci. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni l'argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Je devrais m'arrêter ici et voir ce qui se passe, mais vous le savez déjà ce qui se passe, mais eux, ils ne savaient pas exactement ce qui se passe, surtout lui, ils ne savaient pas. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Pierre, avec assurance, dit à l'homme boiteux, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Qu'est-ce que cela veut dire « au nom de Jésus-Christ de Nazareth » ?« Au nom de Jésus-Christ » veut dire « par l'autorité de Jésus-Christ et par la foi en Jésus-Christ. » C'est cela que cela veut dire. « Par l'autorité de Jésus-Christ et par la foi en Jésus-Christ. » Alors, je ne sais pas pourquoi Pierre et Jean, les deux disciples, ont remarqué ce mendiant ce jour-là. Parce que certainement, ils avaient l'habitude d'aller prier au temple. Mais ce jour-là, quelque chose était spécial. Ils ont écouté la voix du Saint-Esprit, comme notre frère Albert aussi a écouté la voix du Seigneur. Et ils ont su, ils doivent faire quelque chose de la part du Seigneur. Ils étaient dirigés par le Saint-Esprit pour opérer ce miracle au nom de Jésus. Ils sont courageux et ils ont la foi. Et je dirais ce matin, j'aimerais en tirer une leçon. Nous aussi, dans notre train-train de tous les jours, nous aussi nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Pour voir ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Où est-ce qu'il faut intervenir? Par exemple, je me souviens d'une situation dans notre centre de ministère à Niamey, où nous avons partagé l'évangile avec les Tamajek et d'autres personnes. Il y avait un jeune homme, un jeune Touareg, qui était en route pour la Mecque. Et il passait par notre centre et il avait une douleur dans son bras. Nous avons prié pour lui dans le nom de Jésus. Des années après, il nous a dit qu'il avait été en pèlerinage en route pour la Mecque, mais ce jour-là, quand nous avons prié pour lui au nom de Jésus, pour la guérison, Jésus l'a touché et l'a guéri. Et il s'est confié à Christ. Jésus voit les cœurs et les âmes qui ont soif de lui. Des fois, il utilise la guérison pour attirer les gens à lui-même. Je crois que nous devons être courageux dans notre marche avec le Seigneur. nous vivons notre vie quotidienne, c'est bien, mais nous devons être à l'écoute du Seigneur. Nous devons passer du temps avec le Seigneur pour apprendre à écouter sa voix. Est-ce que ce monsieur, dans le train, au travail, à l'école, partout où on se trouve, peut-être même à l'église, est-ce que le Seigneur voudrait que j'intervienne d'une manière ou d'une autre dans la vie de ce frère, de cette sœur, de ce monsieur, de cette dame, de cet enfant? Pierre et Jean, ils guérissent, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, guérissent ce monsieur qui a, on nous dit, 40 ans. Alors, dans ce milieu, c'est déjà un peu vieux. Mais Dieu opère ce miracle. Et je crois que c'est un encouragement pour nous d'être à l'écoute du Seigneur dans notre combat de tous les jours, de ne pas nous focaliser sur nous-mêmes, comment on va mener ce combat, non, mais d'écouter le Seigneur, parce que lui, il veut peut-être nous utiliser pour intervenir. Et notez bien, cette guérison miraculeuse se passe d'abord un peu dans l'isolation, parce que c'est vrai, c'est à la rentrée de la porte du temple, à l'entrée de la porte du temple. Mais regardez ce qui se passe après la guérison. Et je crois que c'est très important. Après la guérison, il y a la foule qui vient. Parce que c'est spectaculaire quand même. La foule qui vient, qui se réunit, et maintenant, Pierre et Jean profitent pour prêcher. Et pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à la foule. Donc, la guérison n'a pas eu lieu pour être une fin en soi, mais a amené une prédication dans le nom de Jésus et qui exalte le nom de Jésus. Il est important, je crois, de comprendre que oui, c'est vrai, Dieu guérit, mais il le fait pour sa gloire et pour élever le nom de Jésus-Christ et pour faire avancer son œuvre et pour attirer les gens à Jésus. Je me souviens aussi au Niger, temps à autre, nous avons eu l'occasion de faire des campagnes d'évangélisation et nous avons aussi prié pour les malades, mais nous avons prêché l'Évangile. Et des fois, le Seigneur est intervenu, il y a eu des guérisons, mais ce qui était encore plus réjouissant, il y a des gens qui sont venus à Christ. Alléluia! Et là, nous voyons quelque chose de très intéressant. Cette guérison qui s'est passée est une guérison absolument authentique. Elle est authentique. Parce que l'homme a été connu, on sait qui il est, et maintenant, il marche. C'est authentique, c'est prouvé. Alors qu'aujourd'hui, des fois, les guérisons ne sont pas du tout authentiques, mais simplement spectaculaires. Donc, nous devons faire attention. Je crois que le Seigneur guérit toujours pour sa gloire, mais il le fait dans le but pour attirer les gens à Jésus-Christ, pour trouver le pardon, pour trouver la paix, pour trouver la vie éternelle. Une prédication qui exalte le nom de Jésus. Acte 3, verset 11. « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que tu as ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière, notez cela, cette entière guérison. Cette entière guérison en présence de vous tous. C'est en public, c'est authentique. Pierre souligne le fait que ce n'est pas leur propre puissance qui a fait marcher cet homme. C'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il donne la gloire où la gloire est due. Il exalte le nom de Jésus. Très important, parce que vous savez, nous sommes vulnérables à accepter la gloire pour nous-mêmes. Nous sommes très vulnérables. Tu vas dire, ah non, 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 je suis humble, ça ne va jamais m'arriver, jamais. Mais il y a toujours ce grain d'orgueil, ce grain de fierté qui veut s'élever soi-même. Ici, Pierre et Jean refusent cela. Et ils disent, la gloire est à Jésus-Christ, la gloire est au Seigneur seul. Je voudrais attirer votre attention, donc premièrement, une guérison miraculeuse dans le nom de Jésus. Deuxièmement, une prédication puissante en élevant le nom de Jésus. Notez bien ce qui est dit dans cette prédication. Et ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu cela, c'est surtout deux choses. La première chose, serviteur, le serviteur Jésus. Pierre dit, c'est le serviteur Jésus, c'est par le serviteur que ce miracle est arrivé. Et il sait que serviteur est un titre messianique dans le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe 42, 52 et 53, le Messie est appelé le serviteur de l'Éternel. Et aussi les termes qu'il utilise, le saint et le juste, sont également des termes qui sont appliqués au Messie. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que la croix et la résurrection, l'œuvre de Jésus-Christ, est absolument au centre de cette prédication. La croix, la résurrection du Seigneur au centre du message. C'est central. Et je crois que dans notre prédication, dans notre témoignage de tous les jours, dans tout ce que nous partageons, la croix, la résurrection, l'œuvre du Seigneur doit être au milieu, doit être au centre de ce que nous proclamons, de ce que nous disons. Et Pierre affirme encore quelque chose, il dit, nous en sommes témoins, nous sommes des témoins oculaires. Et le mot pour témoin ici, vous connaissez, c'est martyr. Quand vous lisez le mot témoin dans le livre des Actes, ça veut dire martyr, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt, quelles que soient les conséquences, à subir le sort pour ce qu'il croit. Et maintenant, frères, verset 17, « Je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Verset 19, « Repentez-vous donc, » entre-temps, il y a déjà une grande foule qui est là, « convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Alléluia. Pierre prêche l'Évangile. D'abord, la croix, la résurrection. Et maintenant, il dit, il doit avoir une conséquence de cela. Et la conséquence, c'est quoi? Et ça n'a pas changé, chers frères et sœurs. Ça n'a pas changé. De nos jours, c'est le même message, c'est la même centralité, c'est la repentance. Le résultat de cette prédication, le résultat de cette prédication qui élève le nom de Jésus, qui exalte le nom de Jésus, c'est l'appel à la repentance, c'est l'appel à venir confesser ses péchés et à se confier à ce Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Notez ce qu'il dit. Si vous vous repentez, vos péchés seront effacés. Il y a une image intéressante ici. Au temps biblique, l'encre utilisée pour écrire sur le papyrus ne contenait pas d'acide. L'encre ne pénétrait donc pas dans le papyrus. L'encre restait sur la surface. Et l'encre pouvait être effacée en l'essuyant avec une éponge mouillée. C'est ça l'image quand Pierre dit « Vos péchés seront effacés ». Et deuxièmement, ils recevront un rafraîchissement de la part de Dieu. Rafraîchissement à un jour comme aujourd'hui. Cela fait du bien, un verre d'eau fraîche, une cola, une bière, comme on a entendu tout à l'heure, pour ceux qui boivent de la bière. On est rafraîchi. L'eau qui rafraîchit, qui apaise notre soif, c'est Christ qui donne cette eau-là. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, Christ, lui donnerai, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. Alors je ne sais pas, chers frères et sœurs, quelle est votre situation ce matin. Est-ce que vous connaissez ce Christ sur la croix qui est mort pour vous? Si oui, réjouissez-vous. Sinon, vous pouvez le connaître. Vous pouvez parler à nous, à vos amis qui vous ont invités, et nous pouvons vous aider à croire en lui, à faire ce pas-là. Si vous êtes déjà à Christ, mais vous avez besoin d'un rafraîchissement ce jour de chaleur, vous pouvez également venir à Christ. Parce qu'il a dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes quoi ?» Alors, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes chargé? Et il a dit quoi? « Je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Ça, c'est le rafraîchissement. Repos pour nos âmes, la paix. Repos pour nos âmes. Alors que le Seigneur nous aide à placer notre confiance en lui. Et là où il nous donne l'occasion, prions dans le nom de Jésus pour nos amis. Et regardons l'intervention du Seigneur. Et là où le Seigneur nous donne l'occasion de prêcher ou de partager ou de témoigner, témoignons avec courage et foi et joie malgré l'opposition. Parce que nous sommes enrôlés dans un combat ici en Suisse comme en Côte d'Ivoire, comme au Niger. Nous sommes tous des soldats de Jésus-Christ. Amen. Peut-être nous ne sommes pas tous habillés en tenue militaire, mais nous sommes tous des disciples de Jésus, des soldats de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous voulons prier.